En 1996, en Alabama, deux détenus profitent de leur transfert vers une nouvelle prison pour s'évader. L'un est un meurtrier, l'autre un professionnel de l'évasion. Les agents du FBI se lancent à leur poursuite, mais lorsqu'un homme disparaît sur leur passage, l'affaire prend une tournure meurtrière. Les autorités doivent retrouver les fugitifs avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Vous écoutez les dossiers du FBI. Prisonnier en cavale. Première partie.
Le 21 mai 1996, en Alabama. Un policier de DeKalb County était assigné au transport de trois prisonniers qui devaient se présenter en cour pour connaître la date de leur procès. L'un d'eux, Michael Thompson, devait y être inculpé de meurtre. Il venait tout juste de faire connaissance avec un autre détenu, Roger Yeadon. Ce criminel de carrière comptait 17 condamnations pour vol et 3 évasions de prison à son actif. Le troisième détenu à bord participait à un programme de travaux communautaires. Compte tenu que le trajet n'était pas long, les trois hommes n'étaient pas menottés. Le groupe approchait de Talladega, en Alabama, quand Thompson passa à l'action. Sous la menace d'une arme à feu, il força le policier à poursuivre sa route. Il lui ordonna de conduire le véhicule jusqu'à un secteur isolé dans les bois près de Lincoln. Thompson et Yeadon prirent alors le contrôle de la situation. Ils conduisirent leurs deux otages dans les bois. Ils forcèrent le policier et l'autre détenu à enlever leurs vêtements. La clé des menottes tomba par terre sans qu'ils ne le remarquent. Menotté au fond des bois, le policier se demandait s'il allait être abattu. Mais les deux évadés prirent tout simplement la fuite. Michael Thompson et Roger Yeadon partirent en direction de Talladega, laissant leur uniforme de détenu derrière eux. Yeadon en était à sa quatrième évasion d'une prison de l'Alabama. Le policier devait aviser le bureau du shérif au plus vite. Il trouva la clé et ouvrit les menottes. Ensuite, il courut chercher de l'aide. Les deux évadés disposaient de l'arme de service de l'agent et du fusil de chasse qui se trouvaient dans la voiture de police. Ainsi déguisés en policiers, ils représentaient un réel danger pour tous ceux qui croiseraient leur route. Pendant ce temps, le policier et le troisième détenu réussirent à stopper un automobiliste et ils lui demandèrent de les conduire au poste de police le plus proche. On transmit immédiatement un bulletin d'alerte à toutes les unités de patrouille. Le service de police de DeKalb County entreprit des recherches dans cette localité rurale qui compte des centaines de kilomètres de routes isolées. Malgré les recherches, personne ne vit les fugitifs, ni la voiture de police volée. Ce n'est que tard en soirée que les autorités reçurent leur premier indice sur Thompson et Yeadon. Un homme appela le service de police de Talladega pour raconter sa mésaventure. Plus tôt, au cours de la journée, il avait remarqué qu'une voiture de police le suivait. En entendant la sirène, l'homme se gara sur le côté en se disant qu'il faisait sans doute l'objet d'une simple vérification. L'agent lui demanda de lui remettre son permis de conduire et son portefeuille. L'ambulancier Bob Gartney fut surpris car il n'avait pas fait d'excès de vitesse.
Il m'a dit « On vous a arrêté parce que votre véhicule correspond à la description d'un pick-up impliqué dans un délit de fuite. » Je lui ai alors répondu, mais je n'ai eu aucun accident. Vous pouvez l'examiner, il n'y a pas eu une égratignure. Il m'a dit, comme il correspond à la description, nous allons devoir vérifier tout cela.
Obéissant aux ordres de l'agent, l'ambulancier monte à bord de la voiture de police. Il se dit qu'il y avait sans doute eu une erreur et qu'on allait le laisser aller sous peu.
Il m'a dit, nous allons vous conduire sur la scène de l'accident. J'ai dit, d'accord, ça va nous permettre de clarifier la situation.
Gourtney commença à avoir des soupçons quand il vit un homme en civil, portant un fusil de chasse, sortir de la voiture de police et courir jusqu'à son véhicule. Selon la description qu'il en fit, il s'agissait vraisemblablement de Roger Yeadon. Quant à l'homme vêtu d'un uniforme, c'était sans doute Michael Thompson. Thompson suivit le pick-up, l'ambulancier prisonnier à l'arrière de la voiture de police. Courtney lui demanda alors des explications.
Il m'a dit, nous voulons seulement prendre votre pick-up. J'ai compris que j'étais victime d'un enlèvement. Ces gars-là m'ont tout simplement enlevé. J'ai commencé à l'implorer en lui disant que j'avais 30 ans, une femme et des enfants. J'ai ajouté, vous avez mon pick-up et mon arme. Ma mort ne vous apporterait rien.
Michael Thompson suivit le pick-up jusqu'à un secteur isolé en dehors de l'autoroute. Roger Yeadon avait trouvé le pistolet de 9 mm de l'ambulancier. Quant à Gourtney, il était à la merci des deux hommes, emprisonné sur le siège arrière de la voiture de police. Les deux hommes le forcèrent à monter dans le coffre de la voiture de police. L'ambulancier était convaincu que son heure était venue.
J'avais peur et je tremblais. Et puis je me suis mis à penser au fait que j'étais ambulancier et qu'il m'était arrivé à plusieurs reprises de sortir des gens de situations impossibles. Je me suis dit, maintenant, tu dois faire ce qu'il faut pour ne pas y rester.
À l'aide du cric qui se trouvait dans le coffre, Gourtney travailla pendant 2 heures. Finalement, il réussit à l'ouvrir. Il courut jusqu'à la maison la plus proche, où à sa demande, une femme appela la police. Immédiatement, la police modifia le bulletin d'alerte transmis aux patrouilleurs pour les aviser que les fugitifs roulaient maintenant à bord d'un pick-up noir. Mais Michael Thompson et Roger Yeadon avaient déjà une bonne longueur d'avance sur eux, les patrouilleurs le savaient trop bien. Le réservoir d'essence du pick-up était plein et il y avait de nombreuses autoroutes importantes à proximité. Il pouvait être n'importe où. 7 jours plus tard, et à près de 2000 km de là, on trouva un pick-up noir abandonné sans plaque d'immatriculation à Santa Rosa, au Nouveau-Mexique. Quelqu'un avait effacé le numéro de série du véhicule sur le tableau de bord. Les policiers trouvèrent toutefois un autre numéro sur le châssis du véhicule. En cherchant dans leur dossier, ils découvrirent qu'il s'agissait du véhicule volé de l'ambulancier de l'Alabama. Les deux fugitifs armés s'étaient débarrassés du seul véhicule que les enquêteurs pouvaient retracer. Le 7 juin 1996, le bureau du FBI de Birmingham en Alabama fit émettre un mandat d'arrestation au nom des deux hommes pour s'être évadés afin d'éviter leur emprisonnement. Tous les services de police au pays furent mis en alerte. Deux semaines plus tard, à 2000 km à l'est de l'endroit où le pick-up avait été abandonné au Nouveau-Mexique, un groupe d'étudiants en plongée sous-marine aperçut une voiture au fond du lac Fowler, près de Terre Haute, en Indiana. L'agent Dean Jenkins, du service des ressources naturelles de cet État, se rendit sur les lieux avec son équipe.
La voiture se trouvait à environ 8 ou 9 mètres de profondeur. Elle était renversée et le pare-brise s'était brisé lorsque le véhicule avait coulé. Apparemment, on l'avait jeté dans le lac.
Des plongeurs du service des ressources naturelles se rendirent au fond du lac pour investiguer. Ils trouvèrent la voiture rouge sans plaque d'immatriculation. Ils trouvèrent également plusieurs effets, dont des chèques de voyage. Il n'y avait pas de cadavre, ni dans l'auto, ni aux alentours. Après avoir sorti le véhicule de l'eau, les enquêteurs l'examinèrent sur la rive. Dans le coffre, on trouva un passeport britannique au nom du major David Nichols. Dans la boîte à gants, il y avait des chèques de voyage et des talons de billets d'avion émis au nom du major. Parmi les effets se trouvait également un formulaire de la prison de l'Alabama, à l'endos duquel on avait noté le nom et l'adresse de quelqu'un de la région. Les enquêteurs apprirent que la voiture appartenait à une entreprise de location d'auto au Colorado dont on avait signalé la disparition en même temps que celle du major, soit 16 jours après le début de la période de location. Comme l'homme disparu était un militaire étranger, on demanda à l'agent Jack Osborne du bureau du FBI d'Indianapolis de s'occuper de cette affaire. Dès le début, ce dernier crut que la meilleure chance de découvrir ce qui était arrivé au major Nichols était de retrouver la personne dont le nom figurait sur le formulaire de la prison.
À l'endos du formulaire découvert dans la voiture se trouvaient plusieurs notes manuscrites, davantage des noms et des adresses que des numéros de téléphone. C'est à partir de ces données que nous sommes entrés en contact avec une parente de M. Yedon qui vivait à Terre Haute.
Cette femme était la tante de Roger Yedon, l'un des deux fugitifs recherchés par les enquêteurs. Elle déclara à l'agent qu'elle ignorait pourquoi son nom se trouvait sur le formulaire d'une prison. Elle ne connaissait pas le major Nichols non plus, n'avait jamais vu sa voiture rouge de location et ignorait que son neveu était un évadé de prison. Elle ajouta que Yedon avait de vieux amis dans la région, mais elle ne se souvenait pas de leur nom. Si Roger Yedon s'était rendu en Indiana, il y avait fort à parier que le meurtrier Michael Thompson soit encore avec lui. Les deux hommes avaient menacé de tuer trois personnes en Alabama, et ils avaient été vus pour la dernière fois avec deux pistolets et un fusil de chasse. Il fallait espérer que Thompson et Yedon n'ait pas tué le major britannique. Les agents se rendirent à l'ambassade britannique à Washington pour tenter de reconstituer le parcours du major aux États-Unis. L'agent spécial et superviseur du FBI, Jack Osborne, cherchait à savoir où et quand le major Nichols s'était retrouvé sur la route des fugitifs.
Le gouvernement britannique ne nous a fourni que des informations très sommaires. Ils savaient qu'un de leurs officiers de l'armée était arrivé aux États-Unis le 20 mai à Denver et qu'il devait se rendre au Nouveau-Mexique en voiture pour y suivre un cours de langue et ensuite aller au Texas où il devait suivre un autre cours.
Selon les dossiers de l'OTAN sur les déplacements des militaires, le major David Nichols devait assister au premier séminaire le 26 mai à Albuquerque. Nichols était le chef adjoint de l'école des langues du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Ce linguiste parlait couramment cinq langues. Il avait dit à sa femme et à ses trois enfants qu'il prévoyait faire un peu de tourisme au cours des quelques jours précédant le séminaire. Mais les supérieurs du major déclarèrent que celui-ci ne s'était jamais rendu à l'école et qu'ils n'avaient pas entendu parler de lui ensuite.
Le FBI trouvait étrange que cet officier de l'armée ne se soit pas présenté à l'école.
Agent spécial Jack Osborne.
De même, le gouvernement britannique, par des contacts avec la famille et des amis du major, trouvait inquiétant qu'il n'ait pas donné de nouvelles à quiconque. Au gouvernement britannique, on était très préoccupé par cette affaire.
L'agent Osborne contacta le bureau du FBI d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. L'agent spécial John Shum chercha à découvrir à quel moment on avait vu le major pour la dernière fois sur le territoire de 700 km entre Denver et Albuquerque.
On nous a donné l'itinéraire qu'il devait suivre, des photos et des adresses ici aux États-Unis, des gens qu'il devait rencontrer et où il aurait dû s'arrêter. On nous a fourni un profil complet de cet homme. Autant une description de son passé qu'un aperçu de sa personnalité.
« Les agents vérifièrent également les dépenses portées à la carte de crédit du major. La dernière fois qu'il l'avait utilisée, c'était pour régler une note d'essence dans la petite ville de Raton, à la frontière du Colorado et du Nouveau-Mexique. Cette station d'essence était située à 240 km de l'endroit où Michael Thompson et Roger Yeadon, les deux évadés de l'Alabama, avaient abandonné le pick-up noir qu'ils avaient volé une semaine plus tôt. Les agents voulaient établir jusqu'où s'était rendu le major une fois qu'il avait quitté Raton. Ils vérifièrent un hôtel dans le quartier historique d'Albuquerque où le major avait réservé une chambre à l'avance. Il ne s'était jamais présenté et l'on avait omis d'annuler sa réservation. Le major avait disparu quelque part entre la station-service près de la limite du Colorado où il avait utilisé sa carte de crédit et l'hôtel d'Albuquerque. Le FBI croyait que Michael Thompson et Roger Yeadon l'avaient enlevé, mais eux aussi s'étaient volatilisés. L'agent Shum appela l'épouse du major en Angleterre afin qu'elle lui dise comment, selon elle, son mari aurait réagi s'il avait croisé la route de deux criminels désespérés.
Elle m'a dit que c'était un homme très doux, très bon. Selon elle, s'il y avait eu une confrontation avec ces deux hommes, il n'aurait certes pas opposé de résistance. Il aurait fait tout ce qu'on lui aurait demandé pour éviter un affrontement.
À 2000 km de là, en Indiana, près du lac où l'on avait retrouvé la voiture du major, la police reçut l'appel du gérant d'un dépotoir qui disait avoir aperçu deux hommes suspects. Quand le policier arriva, les deux hommes descendirent d'un pick-up rempli de ferraille pour s'enfuir dans les bois. Il aurait été imprudent de les suivre sans renfort. Le policier fit vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation et découvrit que le véhicule avait été volé. Des experts en scène de crime fouillèrent le véhicule. Ils y trouvèrent l'étiquette de la bandoulière de la caméra vidéo du major David Nichols. Ils trouvèrent également une lettre adressée à la mère du fugitif Roger Yeadon en Alabama.
En gros, il y disait qu'il était sorti de prison et qu'il comptait rester dans la région de Terre Haute.
Les agents la contactèrent. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils et n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Les enquêteurs avaient l'intime conviction que les fugitifs étaient à portée de main.
Les indices que nous avons recueillis dans le pick-up étaient très significatifs.
Agent spécial Jack Osborne.
Parce qu'ils établissaient un lien solide entre Yeadon, Thompson et ce véhicule, de même qu'entre ce véhicule et le major disparu.
Les enquêteurs de l'Indiana et du FBI, qui avaient établi un poste de commandement temporaire dans une école secondaire à Terre Haute, obtinrent un mandat de la cour les autorisant à fouiller le passé de Yeadon. Celui-ci faisait la plupart de ses mauvais coups avec un ami en particulier. En vérifiant le dossier de cet individu, les policiers apprirent qu'il était le gérant d'une entreprise de récupération de vieilles autos. On confia cette piste à l'agent spécial William Hamilton d'Indianapolis.
Mon collègue et moi-même avons décidé de nous rendre sur place à bord d'une voiture banalisée, sous le prétexte que nous étions à la recherche d'une pièce d'auto.
La propriété d'une superficie de 2 hectares était l'endroit idéal où se cacher. C'était un véritable labyrinthe de carcasses de voitures entouré d'un bois très dense. Les agents surveillèrent les lieux pendant un moment. D'abord, on devait s'assurer que le gérant de service était bien l'ami d'enfance de Yeadon. Les agents laissèrent leurs plaques d'identité, de même que leurs armes, dans leur véhicule pour ne pas être identifiés.
En allant jusqu'au bout du terrain, nous avons remarqué une roulotte dans les bois, ainsi que deux hommes qui semblaient travailler.
Les deux hommes correspondaient à la description des fugitifs armés, mais pour l'heure, il était impossible pour les policiers sans armes d'aller le vérifier. Ils espéraient en apprendre plus du gérant. Ils lui parlèrent de tout et de rien, ce qui leur permit de savoir qu'il était bien un ami de Roger Yeadon.
Cet ami d'enfance nous a confié qu'il le connaissait depuis plusieurs années. Les deux fugitifs lui avaient rendu visite au début du mois de juin. Il conduisait alors une Taurus rouge.
Cette voiture correspondait à la description de celle du major porté disparu. Les agents avaient à peine terminé leur conversation qu'ils constatèrent que les deux hommes aperçus un peu plus tôt avaient disparu. Pour le FBI, c'était à coup sûr Thompson et Yeadon. Après avoir constitué une équipe pour procéder à leur arrestation, les agents et les policiers de la région retournèrent au plus vite à l'entreprise de récupération d'auto. En route, ils aperçurent un pick-up filant à toute vitesse dans la direction opposée à la leur. Un des agents reconnut Yeadon à l'intérieur, assis à côté du gérant de l'entreprise de récupération. Il n'eut toutefois pas le temps de voir si Michael Thompson était avec eux. Les enquêteurs se mirent à leur poursuite. Ils suivirent le pick-up jusqu'à un cul-de-sac. Yeadon sauta du véhicule et s'enfuit dans les bois. Les agents gardèrent avec eux l'ami d'enfance du fugitif pour le questionner. Il déclara que Yeadon l'avait obligé à entraîner les policiers dans une poursuite jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de sauter du véhicule. Une fois que les policiers eurent l'assurance que l'homme n'avait pas volontairement hébergé les suspects chez lui, ils lui donnèrent congé.
Cet ami d'enfance ne connaissait rien de leurs activités criminelles.
Agent spécial William Hamilton.
Tout ce qu'il savait, c'était que Yeadon avait déjà fait de la prison pour un vol.
Roger Yeadon avait réussi à semer les enquêteurs à sa poursuite. On fit appel à une unité canine pour tenter de le retracer. Le chien n'eut aucun mal à retrouver son auteur. Le 2 juillet 1996, Roger Yeadon décida qu'il en avait assez de courir. Mais son complice, le meurtrier Michael Thompson, était toujours introuvable. Détenir Yeadon n'était qu'une demi-victoire, comme nous le raconte l'agent spécial Jack Osborne.
Après l'arrestation de Yeadon, nous n'en avions pas encore terminé. Nous avions maintenant affaire avec cet autre fugitif et sans doute le pire des deux. Nous ignorions où il était, s'il se trouvait toujours sur la propriété, s'il se terrait dans les bois et s'il était armé.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Peter Copper et Mark Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assisté de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.